Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et donc, on est de retour en ondes, chers auditeurs. On se retrouve pour une entrevue avec monsieur Fontecilla. Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue dans l'émission.
Oui. Bonjour.
Alors, vous êtes député de Québec solidaire et nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui pour parler du guide en ligne qu'a déposé Québec solidaire pour informer les locataires de leurs droits face à l'adoption du projet de loi 31 de la CAQ. Alors, merci de votre présence. Dans un premier temps, il est indéniable qu'au Québec et même au Canada dans son entièreté, qu'on vit une immense crise du logement en ce moment, qui touche en grande partie les travailleurs, les étudiants et en fait la majeure partie de la population aujourd'hui, surtout avec l'inflation qui prolétarise de plus en plus la population, qui appauvrit de plus en plus la population, la crise du logement, la hausse des loyers, tout le contexte économique fait que tout ça se fait de plus en plus ressentir, en réalité. Et ma première question, c'était finalement, quel était l'objectif de la CAQ de faire adopter un projet de loi comme celui de la loi 31? C'est la question qu'on peut se poser.
Mais écoutez, la CAQ, c'est principalement répondre à la crise, à la pression populaire, à la pression politique devant la gravité de cette crise du logement. Vous avez nommé quelques conséquences, hausse fulgurante des loyers, une épidémie d'éviction un peu partout à travers le Québec, un appauvrissement généralisé des ménages locataires. Donc c'est pour répondre à cette crise-là. Il ne faut pas oublier que la CAQ a passé son premier mandat de 2018 à 2022. 90% de son mandat, il a nié l'existence de cette crise du logement. Ça lui permet de faire l'économie d'action dans le domaine de l'habitation, mais devant la gravité de la crise, ils ont dû répondre. Et les réponses concernant le secteur des locataires, ça a été le projet de loi 31, qui est un projet de loi, tout d'abord, qui enlève des droits aux locataires et qui ne s'attaque pas vraiment aux causes et à la protection des locataires en ce moment.
Merci.
Bonjour, M. Fontecilla, c'est Marc-Antoine. Le guide Internet qu'a déposé Québec solidaire en ligne informe les locataires de leurs droits afin de ne pas être victimes d'une augmentation de loyer abusive.
En effet.
Quels sont les groupes de personnes les plus vulnérables face à ces augmentations?
Ben, écoutez, les groupes de personnes les plus vulnérables sont surtout, on va les trouver, un peu tout le monde est vulnérable en ce moment, là, mais il y a des secteurs qui sont plus particulièrement affectés. Et aux deux extrémités de la pyramide d'âge, tout d'abord les jeunes étudiants et étudiantes qui subissent de plein fouet cette crise-là, et sans avoir les moyens ou financiers ou les revenus nécessaires pour faire face aux hausses des loyers. Et tout d'abord, ce qu'on remarque, le lot public cible qui est particulièrement affecté, c'est les personnes aînées. Et donc, en général, très souvent, pas toujours, mais très souvent, des locataires qui restent depuis longtemps dans leur logement, qui, par conséquent, ont des loyers nettement plus bas que les prix du marché. Les prix des loyers, lorsqu'il y a de nouveaux loyers qui sont offerts sur le marché. Et ces personnes-là sont la proie des spéculateurs qui achètent des bâtiments pour rentabiliser leur investissement et procèdent à des évictions, soit par des méthodes pas très catholiques, je pourrais dire, ou des méthodes légales. Ils mettent à la porte ces locataires-là, procèdent à une nouvelle location avec des travaux ou pas de travaux, mais une nouvelle location avec des loyers nettement plus élevés. Donc, c'est les deux secteurs les plus affectés. Mais on constate aujourd'hui que l'ensemble de la population locataire vit ce type de problèmes, les ménages avec des enfants, etc. Donc, dès que votre immeuble a été vendu, là, il y a un signal d'alarme pour les locataires. Est-ce qu'il y a un avis d'éviction? Est-ce qu'il y a une hausse salée, etc., etc.?
Merci beaucoup. Donc,
comme vous dites, là, souvent, ben, en fait, le projet de loi 31 vient vraiment renverser là, le fardeau de preuve qui maintenant revient aux locataires.
Ça, c'est une avancée.
Oui, exactement. Là, fait que ça vient protéger vraiment les expulsions abusives aussi. Puis on s'entend aussi, j'ai évoqué là, plus tôt là, la semaine dernière, les délais aussi au TAL. Fait qu'on voit que c'est un projet là, qui marque une avancée certaine, mais pour revenir un petit peu au guide, là, le guide COFF, Québec solidaire, est utile là, pour outiller les personnes en situation d'incertitude. On pourrait néanmoins peut-être voir ça comme une solution à court terme. Quelles seraient, là, à plus long terme, là, quelles sont les mesures, en fait, que propose votre formation politique, là, peut-être pour corriger la situation concernant la crise du logement?
Oui, tout à fait. Plusieurs éléments. Tout d'abord, j'aimerais parler un petit peu plus du guide du logement. C'est un guide destiné à informer les locataires de leurs droits, leurs obligations également. Et on constate qu'il y a une très grande ignorance parmi la population, tout âge confondu, sur les droits des locataires. Il est essentiel de mieux outiller les locataires pour faire face à certaines pratiques abusives, pas tous les propriétaires, mais certains propriétaires, surtout les spéculateurs. Donc, c'est important de les informer, qu'ils connaissent, qu'ils s'outillent afin de pouvoir mieux se défendre dans le cas d'une reprise de logement pour motifs illégitimes, pour des évictions, pour des motifs illégitimes, des rénovictions, la discrimination, des hausses abusives des loyers. Qu'est-ce qui va se passer lors d'une vente d'immeuble? Donc, c'est un outil qu'on peut trouver à guide-logement.québec-solidaire. Donc, pour mieux outiller les locataires, c'est essentiel dans cette crise-là. Donc, votre question concernait plus précisément les solutions à plus long terme. Écoutez, le monde de l'habitation est très complexe. Il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne des comptes. À la base, on retrouve des taux d'inoccupation assez faibles un peu partout au Québec, là, qui nous parle d'un déficit dans la construction des logements, en particulier dans le logement locatif. Vous faites attention, il y a une baisse marquée des mises en chantier en ce moment au Québec, là, mais il s'en construit quand même du logement et du logement locatif quand même aussi. Et ça, depuis longtemps, le secteur où se construit le plus, c'est dans le secteur locatif. Mais le problème, c'est que les nouvelles constructions locatives, là, c'est du logement haut de gamme qui coûtent très cher et qui sont loin d'être à la portée de tout le monde, surtout des ménages à plus faible revenu comme les ménages de la population étudiante ou les ménages de aînés. Donc, ils s'en construisent du logement locatif pas assez, mais ces logements-là étaient excessivement chers. D'autre part, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des pratiques spéculatives visant à soustraire plus d'argent des locataires, c'est à montant les loyers. Donc, il est nécessaire de resserrer les lois afin d'atténuer autant que possible la pression sur les locataires qui font face à des pratiques souvent très déloyales, des pratiques d'intimidation pour faire en sorte d'obtenir plus d'argent provenant des loyers. Donc, il est important non seulement de mettre de l'avant des politiques pour construire davantage de logements, en particulier de logements sociaux pour les ménages à plus faible revenu, mais aussi une meilleure protection des locataires.
Bien, merci pour votre réponse. En plus, les foyers à faible revenu dont vous parlez, j'ai envie de rajouter, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de personnes à faible revenu à cause de l'inflation, à cause de l'abandon du secteur public par le gouvernement, la crise donc du secteur public, à cause des problèmes liés à l'embauche. Il y a malheureusement de plus en plus de personnes et de foyers qui sont appauvris malheureusement. Justement, le mouvement de la CAQ par rapport à la crise en elle-même, à la construction de logements, moi je voulais. Enfin, le gouvernement de la CAQ a récemment affirmé que la crise du logement était due à un trop gros nombre d'immigrants temporaires. Et moi, ma question, c'était quelle était la position de Québec solidaire à ce sujet?
Écoutez, encore une fois, la crise du logement est causée par plusieurs types de phénomènes. Et la crise du logement, elle n'est pas nouvelle. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle se manifeste. Elle s'aggrave petit à petit à chaque année. Et c'est vrai qu'il y a un nombre assez important de ménages qui sont formés par l'immigration en ce moment. Mais on ne dit pas que c'est un facteur qui influence la pénurie des logements, mais ce n'est pas le seul et unique facteur. D'ailleurs, on retrouve la crise du logement un peu partout, même dans les plus petits patelins du Québec et du Canada, parce que c'est une crise qui affecte l'ensemble du Canada, et dans des coins où l'immigration est très faible. Par exemple, à Gaspé, il y a une crise du logement, et on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a une invasion d'immigrants à Gaspé, ou à Mont-Laurier, il y a une crise du logement dans les Hautes-Laurentides. On ne peut pas dire parce qu'il y a une invasion d'immigrants qui arrive là. Donc, c'est une solution non seulement qui ne vise pas à les bons problèmes, qui surdimensionne un aspect de la problématique, mais en faisant cela, on fait en sorte de dévier complètement les débats. La crise du logement ne devient pas une crise auquel il faut apporter des solutions en termes d'habitation, mais c'est une crise qu'il faut apporter des termes en termes de politique d'immigration. Donc on est complètement dans une situation autre, on dévie le débat, on dénature les débats, et au lieu de parler des politiques publiques afin de régler cette crise du logement, de l'habitation, on parle de la peur de l'immigration, les méchants immigrants qui viennent non seulement nous voler des jobs comme dans le temps, et ça va réapparaître un jour, parce que ça revient toujours, mais aujourd'hui aussi, ils viennent nous voler nos logements. Donc la conséquence, si on admet cette thèse-là, comme quoi l'immigration est la principale cause de la crise du logement, mais la solution est simple. On ne met pas d'avant des politiques pour promouvoir davantage de logements, mais on arrive à la solution qu'il faut arrêter tout simplement l'immigration, avec toutes les conséquences économiques, politiques, sociologiques que cela entraîne dans le débat lui-même. Donc l'immigrant est encore une fois désigné comme le bouc émissaire d'une crise qui a toutes des causes dans d'autres domaines.
Merci, j'apprécie votre réponse. Et en fait, ce que vous dites, c'est un petit peu que, en fait, comme si c'est la CAQ essaye d'instrumentaliser finalement la crise du logement pour la sortir de son aspect économique et pour lui mettre un aspect identitaire pour finalement mettre ça sur le dos de la question immigrante, en réalité, c'est ce que vous dites.
On cherche des boucs émissaires, on dévie, on fait de la diversion, et pendant ce temps-là, on ne s'attaque pas au vrai problème, là, qui est l'absence de vision de ce gouvernement-là dans le domaine de l'habitation. Ils donnent des coups de bâton à l'aveugle, sans trop savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Il manque une politique, une vision en habitation qui englobe l'ensemble des problématiques qui propose des pistes d'action en termes de politique publique avec du financement. C'est essentiel, le financement doit y avoir un financement public, surtout à la construction, non pas des logements abordables, parce que c'est le nouveau mot à la mode, là, qui produit quand même des logements excessivement chers, oui, mais du véritable logement social sous la forme des coopératives d'habitation, des habitations gérées par des organisations sans but lucratif, ou encore agrandir notre parc d'habitations à loyer modique pour les couches de la population qui ont le plus de difficultés à se payer un loyer décent.
Mais merci pour les propositions que vous venez de dire. Je vais laisser Noémie poser une dernière question.
Mais en fait, moi, c'est plus un commentaire, là. J'ai eu l'occasion justement de regarder le guide offert là, par votre parti, le Québec solidaire. Mm-hmm. Puis je tiens à lever mon chapeau, premièrement, à l'initiative, parce que souvent, il y a également là, une carence au niveau justement des droits qui peut venir justement aggraver la situation là, qu'on vit actuellement. Donc, je tiens à mentionner là, que c'est complet. Ça regroupe là, l'ensemble des informations de manière claire et concise pour les personnes qui sont moins habituées, notamment aux textes législatifs. Donc, Si ça peut être...
Je vais vous donner juste un exemple du manque d'information. Vous êtes une locataire, vous recevez une hausse des loyers qui vous paraît déraisonnable ou même abusive, et le propriétaire, dans son avis d'éviction, vous donne deux choix. Les choix sont soit j'accepte et je reste, soit je refuse et je quitte. Ce qui est pas une information complète. Mm-hmm. Et les locataires se laissent berner par ces choix-là qui leur est donné, et alors qu'il manque une troisième option qui découle des textes du Code civil, les 1943 et 1947 du Code civil, si ça vous tente d'aller fouiller là-dedans. Il y a trois choix, en fait. La première, c'est « j'accepte et je reste ». Deuxième, c'est « je refuse et je quitte ». Et la troisième, qui est souvent pas nommée par les propriétaires dans les avis, c'est « je refuse et je reste ». Et donc, le propriétaire est obligé d'aller en procédure de fixation des loyers au tribunal administratif du logement, l'État. Mais cette option manque souvent. Donc, ce que nous avons proposé à la ministre, ce qu'elle a refusé mordicus, c'est de codifier ces trois choix-là dans le Code civil pour que les propriétaires soient obligés de donner les trois choix et ne pas induire en erreur les locataires qui, devant ces choix-là, se disent « bon, ben, je refuse la hausse parce que je ne peux pas la payer, est trop grande, donc je dois quitter », ce qui n'est pas vrai. Donc, il faut informer davantage les locataires, c'est essentiel si on veut les aider.
Ben exactement, là, c'est à un moment donné jouer sur l'incompréhension là, de justement la législation entourant ça. On s'entend qu'un locataire là, est moins porté à connaître la législation, contrairement à un locateur que lui, c'est son gagne-pain. Là.
Et tout à fait. Et vous savez, là, le tribunal administratif du logement, on va l'appeler comme ça, TAL, c'est pour, dans son mandat, a aussi un devoir un mandat d'information. Autant des propriétaires que des locataires sur leurs droits et obligations. Et la ministre a beaucoup insisté sur, elle a reconnu qu'il faut mieux informer les locataires sur leurs droits. Mais on attend toujours une campagne d'information totale, en bonne et due forme, qui est efficace afin d'informer autant les propriétaires que les locataires sur leurs droits et responsabilités. Et moi, je vais m'atteler à mettre de la pression sur la ministre pour qu'elle mette de l'avant une véritable campagne d'information sur leurs droits et obligations. Vous savez, la plupart des gens, surtout les locataires, déjà, aller devant un tribunal, même si c'est un tribunal de proximité, l'État, où on n'a pas besoin, dans lequel on n'a pas besoin d'être assisté par un avocat, et on peut se représenter soi-même, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup de locataires sont réticents à recourir au TAL pour défendre leurs droits, parce que tout d'abord, en général, on ne veut pas entamer une dispute légale avec notre propriétaire, on veut garder ce refus naturel, on veut garder les bons termes, et ensuite, dès qu'on parle des tribunaux, les gens sont comme « ouf, c'est une grosse tâche, c'est une grosse mission, aller se défendre devant un tribunal », donc les gens craignent d'utiliser leurs recours légaux, mais il faut les informer qu'ils peuvent le faire et qu'il est convenable qu'ils le fassent.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fontecilla. L'émission touche à sa fin, donc on va conclure. L'entrevue touche à sa fin. On va conclure. Je vais vous laisser le mot de la fin. Si vous avez une dernière chose à dire avant la fin de l'entrevue, avant qu'on rende l'antenne. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses, pour votre temps. C'est un échange bien intéressant. Je voulais vous le dire.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est temps que les locataires commence par s'informer sur leurs droits, qu'ils exercent leurs droits et aussi qu'ils se mobilisent pour faire en sorte que le gouvernement mette de l'avant des politiques publiques cohérentes pour régler cette crise du logement. Ce ne sera pas seulement les marchés privés qui est en mesure de répondre à cette crise du logement. En fait, il en est incapable. Ça prend une intervention publique, ça prend une véritable vision du gouvernement en cette matière-là.
Ben merci Monsieur Fontecilla, merci pour votre message, pour la discussion, et je vous souhaite de passer une belle journée.
Bonjour à vous.
Merci. Et chers auditeurs, je vous laisse sur une page musicale et on se retrouve pour la chronique de Noémie dans quelques minutes. À tout de suite.